Radio Prague, les informations.
Bonjour, de nombreux événements en République tchèque pour la journée des anciens combattants. La République tchèque va fournir à l'Autriche toutes les informations nécessaires à propos du futur dépôt nucléaire. Et des étudiants de la ville d'Opava ont appelé à la démission du chef de l'État. À l'occasion de la journée des anciens combattants, en ce mardi 11 novembre, date anniversaire de l'armistice qui a mis un terme à la Première Guerre mondiale, de nombreux événements ont été organisés dans toute la République tchèque. Il s'agit le plus souvent dans les municipalités de cérémonies commémorant la participation de soldats tchèques à des conflits passés. La principale cérémonie s'est tenue à Prague, au Mémorial National de Vítkov, à laquelle participaient les cadres de l'armée tchèque et la direction du ministère de la Défense. Des anciens combattants ont été décorés à cette occasion. Une messe dirigée par le cardinal et archevêque de Prague, Dominik Duka, a également eu lieu à l'église Saint-Jean-Népomucène dans le quartier de Hradčany. La République tchèque fournira à l'Autriche toutes les informations relatives à la construction prochaine d'un dépôt de déchets nucléaires. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, après avoir rencontré son homologue autrichien, Sebastian Kurz. L'Autriche s'oppose depuis longue date à l'énergie nucléaire et compte utiliser contre la construction de ce dépôt tous les moyens politiques et recours juridiques. Ce dépôt pourrait voir le jour dans un des 7 endroits choisis et situé près de la frontière avec l'Autriche. Le dépôt de déchets nucléaires devrait être mis en marche en 2065. Les aviateurs militaires tchèques souhaitent augmenter de près d'un tiers le nombre de leurs avions de combat Gripen. Ils soutiennent leur demande en invoquant la détérioration de la sécurité en Europe. Dans un entretien accordé à la radio tchèque ce mardi, le commandant de l'armée de l'air, Lubor Štefánek, a indiqué qu'il serait souhaitable que le nombre d'avions supersoniques passe de 14 à 20 engins. Toutefois, la porte-parole de l'état-major de l'armée tchèque, Jana Ružičková, fait savoir que l'achat de nouveaux avions de chasse n'était pas à l'ordre du jour. 2/3 des Tchèques sont convaincus que le changement social survenu en novembre 1989 valait la peine. Toutefois, les Slovaques sont plus critiques à cet égard, car seuls 58% d'entre eux se sont prononcés de façon positive. La révolution de velours est également l'un des événements les mieux perçus dans l'histoire tchèque. Seule la Première République tchécoslovaque devance l'événement de la révolution de velours. Les résultats de cette enquête ont été publiés ce mardi par le Centre pour l'étude de l'opinion publique, par l'Institut sociologique de l'Académie des sciences et par l'Institut des affaires publiques Bratislava. Même si les conditions environnementales se sont légèrement améliorées l'année dernière par rapport à l'année 2012, la République tchèque se trouve toujours confrontée à la problématique de la pollution de l'air, de l'état de santé des forêts ainsi qu'à la diminution des terres arables. Parmi les plus grands pollueurs de l'air figurent les ménages tchèques en raison d'un système ancien de chaudières. L'environnement est notamment pollué par les transports routiers ainsi que par l'augmentation de la production des déchets issus d'emballages. Ces informations ont été révélées dans un rapport sur l'état de l'environnement pour l'année 2013, qui sera examiné mercredi par le gouvernement. Le rapport soulève notamment la problématique des subventions européennes. Ce mardi, des étudiants de la ville d'Opava ont manifesté leur mécontentement à l'égard du président de la République, Miloš Zeman, qui est en visite officielle de 3 jours en Moravie-Silésie. Brandissant des banderoles, les étudiants reprochaient au chef de l'État sa serviabilité à l'égard du président russe, Vladimir Poutine, son attitude à propos de la question des violations des droits de l'homme lors de son voyage en Chine, ainsi que les grossièretés qu'il avait prononcées lors de l'entretien réalisé avec la radio tchèque le 2 novembre dernier. Des étudiants ont par la suite ouvertement demandé la démission du chef de l'État. Un mot de météo pour terminer. Mercredi, jour de fête des Bénédictes, le ciel se couvre un peu partout sur la République tchèque. Seul l'extrême est du pays annonce un ciel partiellement dégagé. Les températures oscillent entre 11 et 17 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Denisa Tomanova. Restez en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Pierre Mignon pour la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous mes chers amis pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Mais merci tout d'abord à Denisa Tomanova pour son bulletin d'information. Au programme ce mardi, la restauration de la plus importante autoroute tchèque, la DI Jednička, un chantier immense qui avance très tranquillement, peut-être trop tranquillement. Ce sera dans un instant avec Anton Kucherov. Nous parlerons ensuite de la 17e édition du Festival du film français, un événement toujours très attendu en Tchéquie qui débute dans moins de 10 jours maintenant. Enfin, dans la seconde partie de l'émission, Lutsier Dreselova évoquera la situation tragique des Palestiniens vivant à Gaza à travers l'activité de l'association B'Tselem. Bonne écoute à tous et à toutes. Projet ambitieux en cours de réalisation depuis mai 2013, la rénovation de la D1, la D-Jednička, comme l'appellent les Tchèques, plus importante autoroute tchèque, ne cesse de faire jaser. Environ 100 000 automobilistes empruntent quotidiennement le principal axe de communication du pays qui relie notamment Prague à Brno. Malgré les longs travaux entrepris, son état reste critique. Un sujet signé Anton Kucherov.
La D1 est la plus ancienne autoroute en Tchécoslovaquie. Elle est aussi la plus longue, la plus fréquentée, la plus encombrée, la plus dangereuse et la plus mauvaise. Autant de qualifications en connotation négative pour la voie des transports qui assure la jonction entre les deux plus grandes villes du pays, entre Bohême et la Moravie. Si la décision de la construction a été prise en 1938, mais ce n'est pas qu'un an plus tard, sous le protectorat allemand de Bohême et Moravie, que les premiers travaux ont été entrepris. Sa première modernisation débute dans les années 96-99, en raison de l'état critique de la route. Attaché de presse de la direction des routes et des autoroutes en charge du projet, Jan Riedl commente la situation actuelle et ses enjeux principaux.
L'état actuel de l'autoroute est effectivement particulièrement mauvais, parce que cela fait déjà 10 ans que l'autoroute aurait dû être rénovée. Malheureusement, nous sommes dans une situation qui nous contraint à réparer au fur et à mesure certains tronçons, des tronçons sur lesquels les travaux de rénovation sont devenus indispensables et ne peuvent plus attendre.
L'autoroute aura une surface goudronnée conforme aux normes du transport au XXIe siècle. Par ailleurs, le projet prévoit des améliorations de la sécurité et de la prévention, deux objectifs clés ainsi qu'une réduction du bruit et des embouteillages grâce au système 2+2. La rénovation devrait avoir également un impact économique, concrètement la création d'emplois. Certains tronçons de l'autoroute ne sont pour l'heure pas accessibles pour la machinerie lourde, ce qui défavorise les investissements dans certaines régions et fait ainsi stagner le développement économique du pays. Jan Riedl explique le déroulement des travaux.
Actuellement, nous travaillons sur 4 tronçons, parmi lesquels 2 seront prêts cette année. Les 2 autres seront achevés l'année prochaine. Notre objectif est que les travaux ne s'enchaînent pas les uns après les autres et ainsi compliquer le moins possible le trafic.
Il n'en demeure pas moins que ces travaux provoquent beaucoup d'embouteillages sur l'autoroute. Un facteur particulièrement gênant pour les chauffeurs, le passage de l'autoroute entre Prague et Brno, faisant partie du 4e corridor européen Berlin-Nuremberg-Budapest-Istanbul, qui fait également le principal axe de communication depuis la Pologne jusqu'au sud de l'Europe et de l'est à l'ouest de celle-ci. Officiellement, à la fin des travaux est prévu pour 2020, avec un budget estimé à 14 milliards couronnes, environ 510 millions d'euros. Actuellement, il reste environ 150 km à rénover sur les 350 qui comptent l'autoroute.
Comme chaque année à cette époque, l'heure est au vin nouveau et au nouveau cru du Festival du film français. La 17e édition de cet événement majeur pour la cinématographie française en Tchéquie, organisée par l'Institut français de Prague, se déroule en effet du 19 au 26 novembre à Prague, mais également à Brno, České Budějovice, Hradec Králové et Ostrava. Au programme, détaillé ce mardi en conférence de presse, 8 avant-premières, une rétrospective consacrée à l'œuvre du réalisateur Benoît Jaco, ou encore un focus sur les films récents de Juliette Binoche.
Quand je ne dors pas,
filmé par le maître iranien Abbas Kiarostami dans son activité de peintre par sa sœur Marion Stalens ou en Camille Claudel par Bruno Dumont, Juliette Binoche, depuis ses premiers succès avec André Téchiné ou Léo Scarax, n'a eu de cesse de privilégier des projets cinématographiquement ambitieux. Voilà qui méritait bien un focus pour Teresa Yeravova, en charge de la programmation du festival.
En fait, on voulait justement mettre en valeur le film de Olivier Assayas, Sils Maria, qui est en anglais, mais qui est en fait dans lequel elle joue une actrice vraiment très renommée. Juliette Binoche, elle a fêté en fait cette année son anniversaire, 50 ans. Alors, je pense que c'était l'Institut français de Paris à proposer, en collaboration avec l'Institut français de Prague, de présenter en focus de 5 films qu'on peut, en fait, ou en fait de 5 dernières années de Juliette Binoche.
L'ambition du festival est justement de proposer un aperçu le plus vaste possible de la production cinématographique française contemporaine, laquelle continue de se frayer un chemin privilégié vers les écrans tchèques. C'est ce dont témoigne Anna Mitterrand, co-directrice artistique du festival.
Pour 2013, donc, il y avait 40 films français qui étaient sortis par les distributeurs tchèques, qui ont recueilli à peu près 400 000 spectateurs. Cela situe la cinématographie française traditionnellement en troisième position dans la fréquentation des salles, puisqu'en premier lieu c'est toujours les films américains, après c'est les films tchèques et après c'est en fait la cinématographie française. C'est un très beau résultat par rapport aux titres qui ont été sortis, parce qu'on avait manqué des titres forts comme Astérix au service de Sa Majesté ou Les Intouchables. Et le film le plus fréquenté, c'était le film de Michel Gondry, L'écume des jours.
Yves bientôt sera le seul à rayonner.
Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide.
Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher.
Avec 8 films diffusés en avant-première dans le cadre du festival, dont le remarquable « Deux jours, une nuit » des frères Dardenne, est bientôt projeté dans les salles obscures de République tchèque, le cinéma français continue de séduire les distributeurs. Teresa Yeravova.
On travaille avec les distributeurs tchèques qui ont cette année eu la chance d'acheter beaucoup de films qui étaient déjà en fait projetés à Cannes. Mais aussi dans la section choix de la critique tchèque, on a réussi d'avoir les films de la sélection officielle de Cannes et on est très content d'amener en fait les titres de André Téchiné, par exemple L'homme qu'on aimait trop, ou bien les films qui sont en fait déjà prévus pour la distribution. Je voudrais mentionner le film de Bertrand Bonello, Saint-Laurent. Bertrand Bonello, il était à Prague il y a 2 ans pour présenter son film La Polonide. Cette année, en fait, le film Saint-Laurent, il va représenter la France aux Oscars. Et je trouve qu'il va attirer beaucoup de spectateurs.
Parmi les 9 films projetés dans la catégorie du choix de la critique tchèque, long métrage souvent primé dans des festivals internationaux et qui pourrait taper dans l'œil d'un distributeur tchèque, Anna Mitterrand ne cache pas avoir un coup de cœur.
J'ai vraiment un faible, je veux dire, pour le film The Search de Michel Hazanavicius, mais qui est un film très, très exigeant, très difficile pour le spectateur, mais qui est très humain. Et qui pour une fois est vraiment positif à la fin. C'est vraiment un film qui décrit des destins des gens pendant la guerre de Tchétchénie, le destin d'un petit garçon, d'une femme qui travaille dans une société d'aide non gouvernementale. Et aussi, en parallèle, le destin d'un jeune garçon russe qui se trouve en fait enrôlé dans l'armée russe et qui, contre son gré, est transformé vraiment en machine à tuer.
Un noter enfin une section consacrée aux courts-métrages et la présence à Prague de plusieurs réalisateurs, dont Benoît Jacquot, qui présentera son nouveau film « Trois cœurs » ainsi qu'une rétrospective de son œuvre. Toutes les informations sont disponibles à l'adresse www.festivalff.cz. On passe à tout autre chose maintenant. En septembre dernier, le prix Václav Havel, décerné par le Conseil de l'Europe pour la deuxième année consécutive, a mis à l'honneur le militant azerbaïdjanais des droits de l'homme, Anar Mamadli, fondateur en 2001 du Centre pour l'observation des élections et pour la démocratie. Incarcéré dans son pays, il ne pouvait pas se rendre à la conférence organisée en aval de la remise du prix par la bibliothèque Václav Havel, où il était représenté par son père et un proche collaborateur. Les deux autres finalistes, l'ONG israélo-palestinienne B'Tselem, qui recense les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés, et le service jésuite aux réfugiés de Malte, étaient eux bien présents à la conférence intitulée « Les droits de l'homme 25 ans plus tard ». Lucie Dreselova vous propose le dernier des interviews réalisées avec tous les finalistes. Mohamed Saba et Hagai Elhad ont répondu à nos questions relatives à B'Tselem et à la situation dans la bande de Gaza.
Panorama.
Panorama.
L'association israélo-palestinienne B'Tselem est active depuis 25 ans dans les territoires occupés et recense les abus des droits de l'homme dont les forces armées d'Israël sont les principaux responsables. Au micro de Radio Prague, Mohamed Sabah et Hagai Elad pour introduire B'Tselem.
B'Tselem existe depuis 25 ans en tant que centre d'information pour les droits de l'homme dans les territoires occupés. Notre bureau est à Jérusalem, mais nos collaborateurs de terrain, comme c'est le cas de Mohamed, sont implantés en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza. Nous faisons du monitoring, recueillons témoignages, nous documentons, analysons et puis publions les résultats.
Le recensement des violations des droits de l'homme par les forces de l'ordre israéliennes est une tâche délicate dans le contexte toujours aussi tendu. Si les rapports réguliers de B'Tselem sont discutés dans les médias, ils ne sont pas pour autant applaudis. Le quotidien israélien The Jerusalem Post a même caractérisé B'Tselem comme une organisation de gauche radicale qui falsifie et déforme les données. Hagai Elat poursuit.
Vous savez, parler des droits de l'homme n'est pas un concours de popularité. Et si c'était le cas, nous ne l'aurions probablement pas gagné. En même temps, si une organisation des droits de l'homme est populaire, cela peut être une raison de s'inquiéter. Malheureusement, nombreux sont les Israéliens qui perçoivent les Palestiniens comme ennemis et ne sont donc pas prêts à se battre pour le respect de leurs droits. Tandis que pour nous, cela fait partie de notre responsabilité morale. Le respect des droits de l'homme ne peut que profiter à nos deux communautés.
B'Tselem a été fondé en février 1989 par un groupe d'avocats, journalistes et députés israéliens. Déjà en décembre de la même année, il a reçu le Carter Manil Prix des droits de l'homme accordé aux individus et organisations promotrices de ces droits. Outre les campagnes d'information publique, B'Tselem informe régulièrement les députés de Knesset, le Parlement israélien, sur les résultats de ces rapports. Pour les réaliser, l'organisation bénéficie d'un réseau de collaborateurs sur le terrain, dont Mohamed Sabah fait partie. Ce dernier évoque le contexte dans lequel se déroule son travail.
Cela fait 9 ans que je travaille pour B'Tselem. Mon travail consiste à documenter les violations des droits de l'homme dans la bande de Gaza et je suis également les implications du blocage imposé par Israël sur ce territoire. Ce blocage empêche la satisfaction des besoins de base des habitants. Dans les derniers 7 ans, il y avait 3 opérations militaires réalisées par Israël à Gaza avec plus de 3000 victimes et des dégâts matériaux considérables. Les gens n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité, ils n'ont pas de possibilité de trouver du travail et souhaitent la fin de ce blocage et la résolution de ces problèmes.
Quant aux perspectives pour l'avenir proche, Mohamed Sabah était plutôt pessimiste.
Beaucoup de gens n'ont plus d'espoir car cela fait longtemps que les conditions ne s'améliorent pas pour les Palestiniens. Pour cette raison, la migration de la bande de Gaza vers d'autres territoires est très importante. Le fait que des milliers de gens n'ont toujours pas où se loger après l'offensive militaire de cet été accentue ce désespoir. De nombreuses familles restent dans les refuges et dans les écoles.
De plus, s'il est difficile de rester dans la bande de Gaza, il est aussi difficile de la quitter. Mohamed Sabah a lui-même été bloqué pendant 3 jours sur place avant de pouvoir partir de Gaza à Strasbourg et puis à Prague. L'essentiel du travail de B'Tselem tourne autour de la collecte des données et de la publication des rapports. Sur son site internet, l'association s'exprime également au sujet des derniers événements. Parmi les entrées les plus récentes, nous trouvons par exemple l'expression des condoléances aux familles des blessés, victimes d'une attaque à la voiture Bélier du 5 novembre 2014. Dans le même commentaire, B'Tselem a mis en alerte contre le ton belliqueux de la réaction officielle du ministre pour la Santé publique israélien, qui a déclaré qu'un terroriste qui blesse des civils devrait être tué. B'Tselem dénonce ainsi un appel à l'exécution sans jugement venant de l'autorité officielle. Quant à la couverture médiatique de la situation en Palestine, elle fait souvent l'objet de critiques pour être biaisée et partiale. Néanmoins, selon Hagai Elad, il faut différencier entre 3 courants.
I think there are like maybe 3 main different aspects of this.
Oui, je pense qu'il y a essentiellement 3 courants différents. Le premier, c'est la couverture médiatique en Israël. Celle-ci est focalisée sur la souffrance du peuple israélien et sur les victimes civiles des roquettes envoyées sur son territoire. On peut s'attendre à ce que les médias informent de ces cas. Néanmoins, il est regrettable qu'ils ignorent presque complètement ce qui se passe à Gaza. Les médias internationaux, c'est une toute autre histoire. Je ne peux pas juger si leur couverture était particulièrement équilibrée, mais à la différence du passé, depuis quelque temps, les chaînes et journaux internationaux ont leurs correspondants à Gaza. Ils sont capables de faire leurs propres reportages. Et puis le troisième élément, ce sont les réseaux sociaux. Les gens, aujourd'hui, partout dans le monde, ont l'occasion de découvrir des histoires personnelles des habitants de Gaza. B'Tselem a fait également l'usage de ces réseaux sociaux pour traduire en anglais et publier ses témoignages.
Les rapports de B'Tselem constituent depuis 25 ans une source d'informations précieuses car accessible également en anglais. Parmi les articles les plus récents de B'Tselem se trouve le constat que le nombre de Palestiniens en détention administrative a triplé au cours de la dernière année. Cette incarcération sans jugement destinée à prévenir un acte criminel plutôt que de punir un qui aurait déjà été commis concerne 470 personnes selon les chiffres officiels du service israélien des prisons. Voici donc un exemple du type d'information que met cette association à la disposition de tous les intéressés, anglophones, arabes et hébreux. Du fait de leur activité quotidienne qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années, les membres de l'organisation bénéficient également d'un aperçu sur la situation dans la bande de Gaza. Le dernier rapport de B'Tselem porte sur les murs invisibles de l'occupation. Publié en octobre 2014, il explore un quartier à Ramallah, coupé de son entourage par les restrictions à la liberté de mouvement. Sur près de 70 pages, le rapport décrit les conditions de vie des habitants de ce quartier résultant du contrôle militaire israélien qui a duré 47 ans. Lorsqu'interrogé sur sa vision d'une résolution idéale à l'avenir, Hagai Elad se montre prudent et conclut.
Nous sommes une organisation luttant pour le respect des droits de l'homme et non pas un parti politique. Une définition spécifique de la solution dépasse donc notre mandat. Néanmoins, ce que nous demandons, c'est le respect immédiat des droits de l'homme. Ce qui est frustrant, c'est que le processus de paix ne semble pas pouvoir aboutir dans un proche avenir. Ainsi, la situation caractérisée par la violation des droits de l'homme est susceptible de durer. Nous adhérerions aux différents scénarios de solutions politiques, à condition que ceci inclue le respect des droits des Palestiniens et des Israéliens.
Voilà, c'est avec cette présentation de l'association israélo-palestinienne B'Tselem que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivie. Elle vous était présentée aujourd'hui par Pierre Ménian. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.